Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, ce mercredi 2 décembre 2015. Il est 14h04. Quel retard nous avons, c'est absolument incroyable. Christophe Rollin au micro, Gérald est présent. Et nous avons même un invité aujourd'hui, Philippe Mangenot, metteur en scène, directeur peut-être aussi, je crois, de la compagnie de l'Entre-deux, le théâtre de l'Entre-deux, pour un spectacle donné ces jours-ci. Ça a commencé le mardi 1er décembre hier au théâtre de la Renaissance à Oullins. Ça se termine ce vendredi, donc il reste encore plusieurs représentations. Il y a même des scolaires, si vous êtes libre les jeudis et vendredis sur les coups de 14h30, je crois. Eh bien, vous pourrez voir cette pièce, Hamlet 60, pièce très... très particulière, un OTNI, un objet théâtral non identifié, ou bien ODNI, objet dramatique non identifié. Comme d'habitude, comme tous les mercredis, Philippe Mangenot va donc nous en parler jusqu'à 15h. C'est le principe de l'émission avec notre invité. Voilà, on va commencer avec de la musique, puisque c'est très bien, et puis de la musique qui est totalement en lien avec ce spectacle. Il s'agit de Hamlet, thème et variation. Une musique composée par... je n'ai pas le compositeur à l'œil. Eh bien, très bien. Je vous dirai en revanche que c'est bien en rapport avec Hamlet et la traduction de Markovitch. On questionnera Philippe Mangenot, puisque c'est lui qui nous a remis cet album. Vous nous écoutez, vous avez tout à fait raison, sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM à Lyon. Et si vous le faites sur Internet, c'est très bien également, c'est radiocanu.org.
Laissez votre jugement vous diriger. Faites concorder l'action et la parole. La parole et l'action. N'essayez pas d'outrepasser la nature et sa modestie. Car tout ce qui surjoue ainsi s'éloigne du propos du théâtre, dont la seule fin du premier jour jusqu'au jour d'aujourd'hui reste de présenter comme un miroir à la nature, de montrer son visage à la vertu, sa propre image au ridicule, au corps et à l'âge même du temps, sa forme, son reflet, sa forme, son reflet. Surjoué ou joué trop faible, même si cela fait rire les ignorants, ne pourra qu'affliger les hommes de goût, dont l'opinion d'un seul doit avoir plus de poids pour vous que celle d'une salle entière. Celle d'une salle entière. J'ai vu jouer des acteurs que j'ai entendu bien d'autres louanger grandement, qui, je le dis sans blasphème, n'avaient ni l'accent ni l'allure de chrétiens, de païens, d'êtres humains, et qui beuglaient, plastronnaient si fort qu'on les imaginait créés par je ne sais quel manouvrier de la nature, mais créés de travers, tant leur imitation de l'homme était abominable. Dans leur imitation de l'homme était abominable. Et que ceux parmi vous qui jouent les bouffons n'en disent pas plus que leur rôle écrit, car j'en connais qui rient seuls pour entraîner le rire de quelques spectateurs pauvres d'esprit, au moment même où telle ou telle question cruciale de la pièce se trouve en jeu. Telle ou telle question cruciale de la pièce se trouve en jeu. C'est là une chose vile qui montre la plus pitoyable des ambitions chez le fou qui s'en sert.
Allez vous préparer. Et ça continue, je crois. Ça continue encore, cette musique de David Gauchard. J'avais bien son nom, mais je l'avais totalement zappé. Philippe Mangenot vient de me le rappeler. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Salut Gérald.
Bonjour.
Donc, notre invité aujourd'hui pour nous parler de cette pièce, Hamlet 60, qui est mise en scène, ça a commencé, qui est donnée, qui a été la première. Voilà, je bredouille totalement, je cherche mes mots. Ça a commencé hier, le mardi 1er décembre à 20h, au Théâtre de la Renaissance à Oullins. C'est très pratique hein, pour s'y rendre. Attention, auditeurs, ce n'est pas du tout, oh là là, Oullins, la banlieue lyonnaise, si super loin et très compliqué pour y aller, pour se garer. Non, non, détrompez-vous, il n'y a même pas à se garer. On peut y aller en transport en commun. La ligne B dépose à, je crois que ça s'appelle Gare d'Oullins, il me semble, et puis on doit trottiner, quoi, aller 100 mètres, 200, peut-être 300 mètres, mais pas davantage. Et puis on peut ensuite donc bien arriver à cette salle, enfin, ce lieu. Avant de parler du lieu et de la pièce, eh bien, questionnons-le, Philippe, comme chaque mercredi, hein, Gérald, on le cuisine, notre invité. On lui demande d'indiquer son parcours, qui il est. J'ai vu différentes choses indiquées. En 93, vous étiez...
Depuis quand Philippe mange nos subventions? Voilà la vraie question.
Depuis quand Philippe
mange nos subventions?
En fait, mange nos. Oh là là, d'accord, oula, le jeu de mots.
Ça commence fort,
mais j'anticipe 2017, alors je me mets dans la peau de la nouvelle politique culturelle, Philippe.
T'es pas cool, hein. Moi j'avais commencé. On a bu un café avant, on était en terme bien plus.
C'est une très mauvaise blague.
J'ai assez peu de subventions en fait. Donc je vais surtout pas dire que je pourrais m'en passer, mais à l'échelle de cette saison. Disons que j'ai suivi un parcours inverse. La plupart du temps, on démarre en tant que jeune compagnie, puis petit à petit on arrive à l'institution. Moi, il se trouve que j'ai commencé à faire du théâtre principalement au théâtre Les Ateliers, c'est-à-dire pendant plus de 12 ans dans une petite institution à Lyon. Une aventure formidable, principalement basée sur l'écriture contemporaine, et qui s'est très mal terminée. On va pas en reparler, mais qui s'est terminé de manière violente, difficile pour moi.
Ils sont rattachés, je crois, à un théâtre à présent.
C'est maintenant, ça, maintenant c'est lié, c'est le TNG qui est
donc toujours,
qui pilote le théâtre Les Ateliers. Et du coup, j'ai créé ma compagnie après 12-15 ans passés dans l'institution, parce que je me suis retrouvé sans toit, sans famille théâtrale, et avec la nécessité de continuer évidemment à faire du théâtre et de créer du coup Théâtre de l'Entre-deux. Et ce qui est assez, pour venir en lien assez rapidement avec Hamlet 60, c'est que j'ai créé ma compagnie en 2007, et en 2007, j'ai rencontré celui sans qui le spectacle n'aurait pas lieu, si il n'y avait pas eu cette rencontre absolument déterminante, avec André Markovitch, qui est le traducteur, dont vous venez d'entendre d'ailleurs dans la chanson précédente. C'est bien la traduction d'Hamlet d'André Markovitch, mise en musique par David Gauchard. Et cette rencontre a été vraiment un moment. Alors je ne sais pas si j'étais à ce moment-là dans une situation de fragilité pour me plonger dans ce drame à Elsener, mais en tout cas cette histoire m'a parlé, et ce qui m'a parlé encore plus, c'est l'éclairage que me faisait vers après vers, en partant du texte anglais de 1604, André Markovitch. Pendant un mois, on est parti, mais vraiment, on avait le texte de 1604, une gomme et un crayon, et je suis passé, enfin toute la pièce, et je suis passé par l'œil et l'oreille d'André, et voilà que je prenais conscience d'une manière un peu violente que j'étais passé totalement à côté de cette pièce, que je l'avais peut-être mal lue, ou en tout cas que je n'avais qu'une série de stéréotypes ou de lieux communs, et que tout ça était balayé grâce à l'intelligence, l'intelligence d'André. Et très vite m'est venue l'idée non seulement de travailler sur Hamlet et d'en faire un spectacle, mais très vite aussi l'idée de partager avec le public tout ce qu'André Markovitch m'avait apporté sur cette pièce-là. D'où cet
un odni.
On va peut-être rappeler aux auditeurs qui est quand même le grand personnage de André Markovitch.
Donc du coup, André est un traducteur, c'est l'un des rares traducteur qui ne fait que ça, qui traduit qui est spécialiste avec Françoise Morvan, et c'est important, de la littérature russe, qui a traduit tout Dostoïevski, qui traduit Pouchkine, qui traduit aussi bien sûr Tchekhov avec Françoise Morvan, qui s'est attelé là depuis maintenant une dizaine d'années à traduire tout Shakespeare, et qui traduit aussi la poésie chinoise, sans parler le chinois, on pourrait y revenir, c'est-à-dire qu'il part presque d'un mot à mot du chinois pour qui est le démarrage de son travail.
Il connaît des milliers de poèmes par cœur. On avait pu l'entendre à la radio avec Stéphane Hessel avant sa mort. Ils avaient fait un duel de poésie à la radio.
Oui, mais du coup, c'est un orateur absolument formidable. Entendre André Markovitch lire du russe, même si on ne comprend pas un mot de russe, on est bercé par une langue, on est dans un souffle, dans une énergie communicative. Et c'est ce souffle et cette énergie communicative que j'avais envie de partager avec les gens autour de ce travail-là. Donc, je me suis dit très rapidement, mais comment faire pour à la fois être dans la pièce de Shakespeare et complètement dans la pièce de Shakespeare, et comment en sortir pour amener de temps en temps un éclairage sans basculer dans une forme de pédagogie, mais plutôt une forme de dramaturgie active. Et là encore, c'est André, je vais m'amuser, on a le temps de faire un peu de dramaturgie active, c'est une réplique d'Horatio, l'ami d'Hamlet, la première réplique d'Horatio en anglais. Quand on demande à Horatio sur les remparts d'Elsener, les gardes demandent Horatio, il est là, et Horatio répond en arrivant, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore sur les remparts, mais il arrive, « a piece of him ». À la question Horatio, il est là, Horatio répond « a piece of him ». Alors très souvent, la traduction de « piece of him », c'est, je m'amuse, ce matin j'étais dans un lycée, à demander aux lycéens comment ils traduisent. Ils traduisent d'ailleurs comme Desprats, comme Bonnefoy, qu'ils me donnent les bonnes traductions en fait. Ils traduisent ça souvent par un bout de lui, un morceau de lui-même, etc. André traduit « a piece of him » par « oui, virgule, son début ». ce qui est un peu, qui semble un peu énigmatique, voire un peu fantasque, voire et l'œil un peu rieur, il me précise, mais tu verras à la fin de la pièce, donc normalement au bout de 4h30 de représentation, hein, parce que je rappelle que c'est une pièce, c'est l'une des plus longues de Shakespeare, qui doit durer 5h quand on la monte dans sa totalité. À la fin de la pièce, on apprendra de la bouche d'Hamlet, au moment de mourir, une information capitale, une information qui permettrait de reconsidérer le sens énigmatique de ce début. Et là, j'ai presque envie de citer Marie Stuart, en ma fin et mon début. Vous allez comprendre pourquoi. Quelle est cette information qu'on apprend au bout de 4h30 de spectacle? C'est qu'en mourant, Hamlet demande à son ami qui n'a pas envie de vivre, en fait. C'est-à-dire qu'Horatio, à la mort d'Hamlet, il a envie de mourir avec lui. C'est-à-dire que ça termine dans une sorte de carnage épouvantable. Et Hamlet lui dit non, il faut que tu vives pour dire mon histoire, pour raconter mon histoire. Donc au bout de 5h de spectacle, voilà qu'Hamlet fait d'Horatio celui qui est missionné pour raconter son histoire, comme une sorte de disciple. Et moi, c'est ce fil-là que j'ai voulu tirer. C'est-à-dire, je commence effectivement Hamlet 60 par la fin de la pièce de Shakespeare pour faire d'Horatio celui qui va vous raconter cette histoire. Et je m'amuse à décompter le temps. D'ailleurs, il y aura effectivement 60 minutes entre la naissance d'Hamlet qui va être expulsé du ventre de Gertrude sur scène, hein, dans une... vraiment... Et 60 minutes s'écouleront dans un sablier jusqu'à la mort d'Hamlet. Je fais mourir Hamlet au début pour faire d'Horatio celui qui va raconter l'histoire au spectateur, celui qui deviendra d'une certaine manière l'auteur de la pièce qu'on est en train de...
Comme un grand flashback.
Exactement. Donc la mort d'Hamlet, on la reverra une deuxième fois, puisque dans le récit d'Horatio, Hamlet va mourir cette fois-ci dans son récit. Et... du coup, Horatio a la possibilité d'arrêter le temps de la narration, le temps de la fiction, le temps de l'histoire qu'il est en train de raconter aux gens. Et là, moi, je me suis appuyé sur une chose très concrète, dans le fond. C'est que il m'arrive presque tous les soirs, quand je ne suis pas en tournée, de lire des livres à mes enfants, dont l'un a 3 ans. Et dans le fond, quand je lis une histoire à mon fils, la narration est sans cesse, enfin, de manière fréquente, interrompue par un questionnement sur ce qu'on est en train d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits de mystère, des endroits de questionnement où mon fils m'arrête et me pose une question sur ce qu'il est en train de voir ou sur ce qu'il est en train d'entendre, ou même si ce qu'il est en train d'entendre ne coïncide pas avec ce qu'il est en train de voir, c'est-à-dire avec les images qui lui sont proposées. Et à ce moment-là, je prends le temps d'arrêter de la narration pour lui répondre, souvent pour répondre à une question par une autre question, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'apporter une réponse catégorique à un questionnement. Et je me suis dit, mais dans le fond, c'est ça qu'il faudrait conserver, cette possibilité de raconter une histoire à des gens et de s'arrêter de temps en temps sur les grands mystères de la pièce et de les questionner en direct avec le spectateur, alors que dans le fil de la narration, tout ça passerait extrêmement vite. Or, dans la pièce de Shakespeare, il y a 1001 petits moments qui méritent qu'on s'y arrête. C'est-à-dire qu'un détail insignifiant va avoir une répercussion presque sur la totalité, comme une sorte d'effet systémique sur la totalité de la pièce. D'où cette idée de découler le temps, mais aussi d'arrêter le temps de la narration et de partager avec vous des réflexions, des interrogations ou même des faits divers ou des découvertes que j'ai faites en travaillant sur la pièce.
Comme si la critique était intégrée à l'œuvre elle-même.
Voilà, comme si le théâtre...
Le et commentaire, ça, la glose, enfin du moins le...
Le métathéâtre.
Oui, 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 il est question de... Et bien évidemment de... Et la particularité, c'est que j'ai la sensation aussi que Shakespeare, dans Hamlet, ne cesse que de questionner le théâtre qu'il est en train de faire. Là, on a entendu la leçon aux acteurs, c'est-à-dire que la chanson qu'on a entendue juste précédemment, tout au long de la pièce, il y a une sorte de critique d'un théâtre qui serait un art majeur, qui serait opposé à un art mineur, c'est-à-dire un mauvais théâtre, un théâtre qui serait du côté du piège ou du mensonge, ou un théâtre qui serait simplement dans le divertissement, mais pas du tout dans une chose où on questionnerait la réalité et le monde qui nous entoure. Et du coup, c'était assez simple pour moi. J'avais la sensation de rester dans une forme de logique, c'est-à-dire de questionner aussi la représentation qu'on était en train de faire, alors que Shakespeare, lui, critique et questionne le théâtre qu'il est en train de faire.
C'est terrible, Gérald. Je me dis que notre invité est en train de torpiller le principe de la première partie de l'émission qui est présente. Non, mais c'est très très bien parce que au moins ça correspond totalement à ce spectacle qui est quelque chose que moi il me semble, enfin ça bouleverse certaines habitudes quoi. Le public est sûrement très très étonné et non pas désemparé, je crois. Il y a pas de désarroi. Il y a plutôt une grande adhésion quoi. Voilà, on apprécie. Moi j'aimerais quand même qu'on revienne un peu à des personnes. C'est très bien. Merci Gérald d'avoir lancé cette question. Qui est André Markovitch? Ça nous a permis, certes, bien entendu, de vous présenter un peu vous, Philippe Mangenot, mais vous avez quand même présenté cette haute figure importante pour ce spectacle. Mais j'aimerais un peu qu'on revienne à vous, et c'est intéressant parce que, enfin, tout de même, en discutant, vous avez évoqué des choses qui vous parlent, cette pédagogie, enfin, du moins, une envie tout de même de partager des choses. Vous avez évoqué donc cette rencontre cet après-midi dans un lycée lyonnais, non loin de Saint-Potin. C'était au lycée Arios, pas très loin de Enfin bref, donc vous avez évoqué ça, donc on peut comprendre que vous êtes un pédagogue, mais j'aimerais qu'on revienne un peu plus à votre figure. Et quoi, l'histoire de 2-3 minutes avant qu'on entende un autre titre, on pourrait écouter Malheur à moi peut-être. Malheur à moi qui tente de mener une émission et qui me rend compte que ça part. Mais c'est très bien. Est-ce qu'on pourrait peut-être davantage évoquer certaines... Vous avez donc parlé de votre travail avec, au Théâtre des Ateliers. Est-ce que vous pourriez... Enfin, une simple question éventuellement. Est-ce que... Il me semble que vous l'évoquez dans la vidéo qui est disponible sur le théâtre, sur le site du Théâtre de la Renaissance. Est-ce que vous souhaiteriez mettre en scène tout de même un jour Hamlet sans tout cet autre, ce méta-propos que vous lui avez apporté? Et c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait un peu définir cet homme de théâtre que vous êtes donc metteur en scène, certes, vous êtes également comédien, enfin, pourriez-vous définir et puis revenir à... En fait, toujours cette grande question qu'on pose à nos invités, c'est... Comment êtes-vous comment êtes-vous venu au théâtre, enfin du moins qu'est-ce qui vous anime, et puis après on entendra Malheur à moi et on reviendra beaucoup plus précisément sur ce Hamlet 60, parce qu'il y a beaucoup à dire, on en a dit beaucoup, vous en avez dit beaucoup, mais il y a encore tellement à indiquer sur ce spectacle qui est encore donné mercredi ce soir ainsi que jeudi et vendredi, il y a même des scolaires, donc encore 5 représentations. Donc je vous en prie, Philippe Mangenot, alors vous aimeriez mettre ces 5 heures en scène?
Oui, ça, je pense que j'aimerais monter. C'est-à-dire que là, l'une des difficultés de ce travail, c'est-à-dire de cette condensation de cette pièce de Shakespeare, parce qu'il y a effectivement 60 minutes entre la naissance et la mort, plus le spectacle ne dure pas 60 minutes parce qu'il y a les interventions d'Horatio, donc le spectacle dure 1h20.
Ouais, vous trichez, là. Évidemment, un sablier qui est sans arrêt interrompu.
Que la prochaine étape, ce serait de le monter cette fois-ci sans coupure. Chose qui est faite aussi assez rarement, hein. C'est-à-dire quand Peter Brook monte à Hamlet, ça dure 2h30, mais du coup, il y a des pans entiers qui sont coupés. Et l'une des découvertes, c'est que parfois, les scènes qui sont fréquemment coupées, a priori étant des scènes mineures, ne le sont pas en fait. C'est-à-dire éclairent les grands thèmes de la pièce. La première scène, par exemple, entre les gardes, est un bijou de dramaturgie. En 3-4 répliques, Shakespeare s'amuse à inverser les codes du théâtre, et c'est absolument incroyable de fulgurance et d'imagination. Alors, il faut que je revienne. Non, brièvement, pour revenir à moi je suis issu du théâtre universitaire. C'est-à-dire, j'ai fait des études d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Et j'ai créé, quand j'étais dans ma dernière année à l'INSA, la section théâtre-études qui existe toujours à l'INSA. Et j'interviens maintenant depuis 5 ans. Je fais une mise en scène par an dans le cadre de mes activités avec les élèves ingénieurs de l'INSA de Lyon.
Ah, c'est intéressant, c'est l'INSA et ce n'est pas l'ENSAT.
Ah non, c'est l'INSA. Alors souvent les gens pensent que...
Ils sont très dynamiques à l'INSA, hein, pour la musique aussi.
Il y a des
orchestres.
Oui, il y a une vie associative. Ouais. Puis à l'époque, il y a toujours un théâtre qui s'appelle La Rotonde. Et j'ai vraiment ma passion du théâtre, dans le fond, c'est comment dirais-je, plus j'avançais dans mes études d'ingénieur, plus ça devenait évident pour moi que j'allais pas devenir ingénieur et que j'allais faire du théâtre. Et il y a une sorte de continuité paradoxale, c'est-à-dire que j'ai pas fait un virage à 90 degrés, mais j'ai eu mon diplôme parce que j'aime bien aller au bout des choses que j'entreprends, mais il était logique que je continue à faire du théâtre puisque c'est ce que je faisais de plus en plus pendant toutes mes études d'ingénieur. Voilà pour dire vite. Ensuite, j'ai travaillé donc pendant 12 ans au Théâtre Les Ateliers. Là, en ce moment, j'accompagne une aventure absolument formidable avec le Théâtre du Point du Jour, l'expérience du théâtre permanent, puisque j'accompagne Gwenaëlle Morin je l'assiste sur les Molières de Vitesse qu'on est en train de tourner, qu'on vient de tourner dans une toute petite commune du département. On a fait une tournée à la Molière absolument réjouissante, en se disant que la présence d'une équipe, d'une troupe dans un petit village pouvait éventuellement changer la vie des gens à l'échelle d'une semaine, puisqu'on restait à chaque fois une semaine dans le village. C'était absolument formidable. On démarrait le lundi on était par exemple, je vous donne un exemple, à Propierre, le premier jour de la tournée, les 10 comédiens et moi-même, on était répartis, on se répartissait le secteur du village et on faisait du porte-à-porte comme l'était au Moins de Jéhovah, et on avait édité les textes de Molière sous forme de journaux, et on prévenait juste les gens de notre présence, en fait. C'est-à-dire qu'à eux ensuite de venir. Et on leur donnait, s'ils le souhaitaient, le texte de la pièce qui allait se jouer le soir. Et sans aucune communication préalable, en dehors de notre présence sur place, en prenant le contre-pied un peu de tous ces plans de communication qui se mettent en place et qui deviennent parfois absolument nécessaires, alors qu'on peut prendre le contre-pied de ça et de se dire que c'est notre présence en tant qu'être humain dans un village qui va faire.
Et ça a marché.
Et ça a marché. C'est-à-dire, nos relais devenaient la bouchère du coin qui, venant le mardi, évidemment, évidemment revenait le mercredi, mais toute la journée parler du spectacle à ses clients
Bouche-à-oreille a très bien marché
de manière formidable.
On peut quand même les nommer ces pièces, hein. C'est pas le médecin malgré lui ou le médecin volant de Molière, c'est quand même le Misanthrope, Tartuffe et Don Juan.
Don Juan plus l'école des femmes.
Ou l'école des femmes aussi. C'est-à-dire trois pièces quand même.
Quatre villages. Et du coup, on a fait ça dans quatre villages du département, nord, sud, est, ouest. Et ensuite, on a été à Nantes. Et là, à partir de moi, je finis donc Hamlet vendredi. Et samedi, on est sur le grand plateau du théâtre des Amandiers à Nanterre, où l'aventure qui a démarré du coup dans les villages du département va se finir sur l'un des plus grands plateaux de France, dans la grande salle, une salle de 1000 places avec un plateau gigantesque. On va retravailler ces quatre pièces pendant un mois sur le grand plateau avant de les exposer au public en janvier 2016 au théâtre des Amandiers.
Tiens, voilà Gérald, mange ça. Toi et tes subventions quand même. Mais j'en ai vu, je les ai pas toutes vues, mais j'ai vu certaines de ces pièces de mise en scène par Gwenaëlle Morin. C'est toujours pénible. Je manque de mots. J'allais dire c'est fort, c'est costaud, c'est impressionnant. Et je pense dans Tartuffe, le Piaro qui parle dans un français. Il me semble que le texte de Molière est quand même peut-être plus lisible, mais c'est bien de pouvoir entendre ce comédien parler sur scène. On comprend pas un mot de ce qu'il dit. Il y a un effet comique prodigieux. La salle et moi j'étais mort de rire. C'était vraiment, bien. Enfin, c'est vraiment super. C'est vraiment. Impressionnant, vraiment saisissant. Nous avons évoqué également on vient encore de le redire, donc cet aspect de pédagogue, c'est très bien. Je pense qu'on a peut-être fait pas le tour, mais on a dit quand même beaucoup de choses sur vous. Je suis assez convaincu qu'on va encore en dire quand nous parlerons plus précisément de Hamlet 60, cette pièce qui est donnée, qui est jouée ces jours-ci au théâtre de la Renaissance à Oullins. Vraiment à 20h, c'est à côté de Lyon. Est-ce qu'il serait temps d'écouter
la deuxième piste.
Malheur à moi, c'est ça?
Être.
Ou à être, d'accord, j'avais passé le être, donc on écoute être, et puis nous continuons, il est 14h25, c'est très bien, on peut donner l'heure sur Radio Canu, vous nous écoutez, vous avez tout à fait raison, c'est jusqu'à 15h qu'on va parler, je crois qu'il n'y a pas de boost des Canu, il me semble, aujourd'hui, je ne sais plus, vous verrez bien ce qu'il en sera tout à l'heure.
Être. Ou ne pas être. La question est là. L'esprit est-il plus noble quand il souffre le fouet d'une fortune avilissante, ou quand il s'arme contre un flot de troubles, se dresse et leur met fin? Mourir, dormir, pas plus. Et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux mille crèves-cœurs, à tous ces chocs qui sont à notre chair un héritage de nature. Certes, cela serait se fondre en un néant pieusement voulu. Mourir, dormir, rêver peut-être.
Car ce sommeil de mort peut apporter des rêves dont, lorsque nous rejetons notre chaos charnel, la perspective nous retient en suspens. C'est cette idée qui donne longue vie à nos détresses, car qui supporterait l'affront du temps? Ces gifles, les tyrans toujours vainqueurs, l'orgueil qui nous méprise, les souffrances d'un amour dédaigné, la loi trop lente, l'insolence des clercs, les rebuffades qu'un homme indigne afflige aux méritants. Si celui-ci pouvait gagner sa paix d'un simple coup de lame, qui voudra supporter ses fardeaux, geindre et suer sous une vie de peine, sans la crainte qu'il y ait quelque chose après la mort? La crainte d'oublier quelque chose après la mort. Cette terre inconnue dont les frontières se referment sur tous les voyageurs, qui paralyse notre volonté et nous fait préférer nos noms présents à d'autres qui nous sont inconnaissables. À d'autres qui nous sont inconnaissables.
Ainsi notre conscience nous rend lâche. Le feu natif de la résolution blêmit ainsi devant cette ombre pâle qu'est la pensée. Et nos projets sublimes, nos élans de haut vol devant cette ombre, inversent leur courant et perdent même le nom d'action.
Pierre.
On en écoutera encore d'autres, des extraits de cet album. Vous vous disiez, là, Gérald, Philippe ou...
On me demandait le nom des villages donc on avait tourné les Molières de Vitesse. Donc c'était Propierre, Haute-Ivoire, Communé. Et voilà que le quatrième ne me vient plus.
Bon, nous retrouvons ça éventuellement. Puis là, en plus, ce serait davantage parler de la troupe du Théâtre Permanent de Gwenaëlle Morin, qui est plus ou moins à Lyon, qui est basée, enfin peut-être pas vraiment maintenant, au Théâtre du Point du Jour.
Actuellement, il y a un artiste qui est invité, voilà. Ibnoël Genot, qui habite et qui occupe le théâtre jusqu'en décembre, sur le principe du Théâtre Permanent, c'est-à-dire d'ouvrir le théâtre presque tous les jours et d'y travailler de manière régulière, mais sur un espace long et de créer les spectacles. Là, il va créer 7 spectacles en 4 mois en fait.
Vous, le Théâtre de la Renaissance, vous l'investissez sur encore 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, avec jeudi et vendredi 2 représentations, 14h30, c'est bien ça pour les scolaires
ou c'est... 14h30 la scolaire du jeudi et 14h celle du vendredi.
Et puis en soirée c'est à 20h, donc vous c'est pour Philippe Mangenot pour le spectacle Hamlet 60, dont on a déjà commencé à parler tout à l'heure, qui est un peu dû à une rencontre avec André Markovitch.
Qui sera présent jeudi 3, pendant la représentation, il y aura un bord de scène, une rencontre avec André Markovitch à l'issue de la représentation. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui le connaissent, ne manquez pas ce moment qui est toujours un moment de partage formidable où André va nous parler de son travail.
Si on veut l'entendre déclamer des poèmes chinois ou russes, c'est ça, il faut le questionner, Gérald, faudra être présent. Je vous en prie, qu'est-ce que vous pourriez indiquer encore,
Christophe, tu as vu le spectacle, oui, contrairement à moi. Donc j'aimerais t'entendre parler de ta propre perception de ce spectacle.
Je suis assez content parce que le compte-rendu, je l'ai commencé, il n'est pas encore tout à fait prêt. Enfin disons, l'entrée existe sur le blog. Je vous rappelle, auditeur, le blog de l'émission spectaculaire, blogs.radiocanu.org/spectaculaire. Et là, vous avez les 170 entrées. On a créé 170 articles. Il y a 82 ou 3 émissions. Je ne sais même pas laquelle c'est aujourd'hui. Et puis il y a donc
82
aujourd'hui. Bah, très bien. Et il y a d'autres articles qui sont des comptes rendus ou des annonces. Et donc le compte rendu, je l'ai commencé, celui de la pièce. L'entrée existe. On peut cliquer dessus. Alors vous verrez qu'il est indiqué. Ne manquez pas l'émission de ce mercredi 2 décembre avec Philippe Mangenot. Et puis également, je donne un lien, mais le titre, je n'en suis tout de même, je crois, pas peu fier, c'est Hamlet avec de l'esprit et de la lettre au Théâtre de la Renaissance à Oulin. Et moi, il me semble que, je déconne, c'est peut-être assez minable, néanmoins, il y a des mots importants, les termes d'esprit et de lettre, ça me semble quand même très fort. Il y a un esprit Hamlet qui est tout à fait, et la lettre, j'ai sous les yeux le texte anglais, on peut entendre de l'anglais. Et c'est quand même fabuleux que d'aller voir une pièce qui n'est pas une pièce en français et d'entendre le texte tel qu'il a été écrit originellement. On est allé voir nous ensemble dans Godot au mois de septembre au Célestin. Bon, ben forcément, le texte était en français. Je suis allé voir Robert Lepage au Célestin pour 8-8-7. Là, le texte était un français, mais bon, c'était un français québécois. J'ai vu ensuite le relire d'Olivier Py. Il n'y a pas d'anglais. En plus, il y avait tout de même une belle durée. On retrouvait un peu les tics de piste. Beau spectacle.
C'est comme regarder le film de Laurence Olivier en VF.
Ah ben, ça perd quelque chose. Et donc là, on entend des mots anglais. Enfin, du moins, il y a un commentaire qui est fait, et je vais laisser la parole à Philippe Mangenot, un commentaire est fait sur la traduction. Il y a d'ailleurs la deuxième réplique d'Hamlet, je crois que c'est pas la première, c'est la deuxième me semble-t-il, quand il dit « Not so much, my lord, I'm too much in the sun ». Non, je l'ai perdu, j'avais tout noté. Non, je la retrouve. « Not so much, my lord, I am », si, c'était bien ça, « I am too much in the sun », c'est le fils, et puis en fait, il y aurait une sorte de jeu de mots avec « sun », et même la première réplique n'était pas commentée. « A little more than kin and less than kind, than kind ». Enfin voilà, Philippe Mangenot, donc vous qui avez décidé, je sais pas comment dire,
Donc on entend l'anglais, c'est une pièce en anglais traduite.
Non, disons.
Sous-titrée, commentée en français.
Non, justement, c'est-à-dire que
Y a-t-il une écriture du texte aussi? Voilà. Est-ce qu'il y a un texte qui existe de Hamlet 60?
J'ai dû en écrire, mais qui est une sorte de version de travail que je modifie mais c'est pas du tout ni édité, ni, c'est une version, qui est sujette d'ailleurs à bouger. Moi, c'était important pour moi à un moment qu'on entende l'anglais parce que André Markovitch, dans son travail de traduction, accorde une grande importance à ces phénomènes, j'allais dire, musicaux sur la langue. Il se trouve que dans Hamlet, on a trois, pour résumer assez vite, mais il y a trois types de langues. Il y a du pentamètre, d'une sorte de vers rimé, de non rimé d'ailleurs, qui de temps en temps est un vers qui rime à des moments bien précis, et on bascule aussi dans la prose. Dans le travail d'André Markovitch, quand on est en vers, quand ça rime et quand on est en prose, il en tient compte. C'est-à-dire que, alors que très souvent, un traducteur peut niveler ses niveaux de langue en traduisant tout en prose, et on perd, c'est, pour moi, ces charnières dramaturgiques.
Il y a une indication, Gérald, il y a une indication, on est au vers 1784, je crois.
Oui, sur le monologue, sur le monologue. Et en plus, il s'est donné une contrainte absolument incroyable, c'est comment rendre compte de cette forme et de cette manière de dire le texte anglais, c'est-à-dire ce fameux pentamètre iambique. Alors, le pentamètre iambique, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est cinq unités de deux temps avec accentuation sur le deuxième temps. Ta ta avec l'accentuation sur le deuxième, je vais essayer de le faire. Ta 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 ta. Et André Markovitch se dit, je vais tenter de traduire le pentamètre par du décasyllabe. Donc première contrainte, alors que a priori n'importe quel anglophone sait que pour traduire l'anglais il faut plus de mots en français. Là il y en aura presque autant, puisque quand il y a 10 temps en anglais il y en aura aussi 10 en français, et comme c'est 5 unités de 2 temps il peut jamais y avoir de césure au milieu en anglais, puisque c'est soit 2 soit 4 pour faire 10, 4 ou 6, 6 ou 4. Mais la césure est jamais... C'est-à-dire que c'est un vers qui est déséquilibré. Mmh. Et André se donne aussi cette contrainte-là dans son travail de traducteur. C'est-à-dire, il faut que ça sonne, et quand ça rime, ça doit rimer. 10 temps quand il y en a 10, et pas de césure à l'hémistiche, et jamais de césure à 5. Je ne sais pas si vous imaginez le travail sur 4000 vers. Mmh. C'est pour ça qu'il faut un poète derrière. Parce que les contraintes sont tellement fortes que... Et c'est parfois les critiques qui lui sont faites. C'est-à-dire, les contraintes étant tellement fortes, il est obligé de s'écarter d'une certaine manière du sens littéral. Mais en même temps, en s'écartant du sens littéral, il se rapproche, pour moi, au cœur de l'œuvre, de la musicalité, d'un travail sur la langue. Et je trouve cette chose... Alors, avec les acteurs, évidemment qu'on s'est appuyé là-dessus. C'est-à-dire que quand il y avait 10 temps, il fallait que l'acteur en fasse sonner 10, avec des choses parfois incroyables. Parce qu'on sent que c'est dans le travail d'André, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui traduit uniquement avec son cerveau et ses yeux, mais on a la sensation qu'il entend respirer l'acteur. C'est-à-dire, si au bout d'un vers qui dure 10 lignes, il termine par un adjectif comme monstrueusement, il a envie d'amener l'acteur au bout du souffle et au bout de la phrase. C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'on peut prendre une sorte de rythme organique, et ça, je trouve ça formidable dans son travail, et on le sent d'ailleurs en le disant, que c'est passé par son oreille et pas simplement par ses yeux. Donc, à un moment ou à un autre, j'avais envie qu'on entende de l'anglais, et que le fait de ne pas comprendre à ce moment-là, c'était dans Hamlet 60, c'est pas forcément ennuyeux, c'est juste se laisser bercer par une sorte de poème, d'ailleurs, où c'est quand les comédiens arrivent à Elsener, Hamlet demande aux comédiens de jouer le meurtre de Priam, et Cube va donc nous raconter ça en anglais et en français, puisqu'à un moment, le monologue est interrompu par Polonius, cet infernal Polonius, et une comédienne va le faire ensuite en français.
Oui, attention, mince, je me demande, faudrait pas trop effrayer les auditeurs ou bien les lecteurs du blog.
Il y a 6 comédiens, faudrait qu'on parle, pourquoi 6?
Mais c'est ça aussi, on est en train de parler du texte, mais ça commence quand même bien avec des comédiens. Ils sont d'ailleurs présentés sur scène, il y a Olivier, Hervé, Raphaël, ils sont d'ailleurs tous nommés.
Émilie, Gilles.
Et puis je crois que c'est Gilles qui lance,
et Philippe.
Voilà, donc voilà, attention, il y a un texte, auditeur, mais il y a quand même des comédiens sur scène et qui sont à fond. Ça bouge, il y a du mouvement, il y a une énergie assez incroyable. Et alors, j'ai lu à différents endroits que tous incarnent notamment Hamlet. En fait, non, il me semble qu'il n'y en a que 2 ou 3 ou 4 qui peuvent incarner Hamlet. Enfin, de toute façon, là n'est pas l'importance. Si ce n'est que vous avez essayé, est-ce que c'est une tentative de votre part de faire ce théâtre élisabétain qui était que les comédiens pouvaient indistinctement
changer de rôle en cours de pièce.
Oui, absolument. Oui. La distribution est totalement, flottante. Pas totalement aléatoire, parce que j'essaye effectivement qu'elle soit au service de ce que Shakespeare nous raconte, mais je ne me suis pas privé, donc, de... C'est-à-dire, effectivement, tout le monde va jouer à un moment ou un autre, presque tout le monde. Je crois qu'il n'y a que Gilles Chabrier qui ne joue pas le rôle d'Hamlet. Mais sinon, on y passe tous. Là encore...
Vous aussi, oui.
Et oui,
Ça correspond à une tradition, ça.
Je sais pas vraiment si c'est une.
Les gens s'y perdaient pas. S'y perd pas d'ailleurs.
Alors après, d'aucuns.
Il y a un effet de. Enfin, il y a des objets, différentes choses qui font qu'on.
Il y a une identification des personnages qui fait que, comme avec un enfant, il y a des signes qui permettent de suivre. Alors ça nécessite néanmoins un peu d'activité. C'est-à-dire que il faut quand on c'est voit tout à coup la couronne qui a changé de place et que tout à coup la couronne n'est plus sur la même tête et que la collerette de Polonius a changé. Et voilà. Donc, mais après c'est une sorte de grammaire. On s'y habitue. Au début, on est un peu désemparé, peut-être. certains peuvent nous l'envoyer.
Ouais, il faudrait quand même prononcer ce mot-là, Jonathan. On va vraiment un instant pour dire attention, c'est un spectacle totalement accessible. Hein. Et puis, alors, accessible, je crois que la Renaissance l'indique, à partir de 7 ans ou 10 ans, je ne sais
13
pas.
13 ans ou 12 ans, on a mis.
Non, mais c'est vraiment, il n'y a
sur
pas
le
de.
Site à partir de 13 ans.
Voilà. Oui, mais hier, il y avait des enfants, alors certes, des enfants de comédiens, mais qui avaient 7, 8 ans.
Ils ont ri. Oui, ils étaient à côté de moi.
Qui ne sont pas ennuyés, en fait. C'est-à-dire que, alors qu'ils n'ont peut-être pas saisi toutes les subtilités par moment.
Donc, c'est accessible, là. Il me semble qu'il fallait le dire. Et je vous ai coupé.
Et oui, mais là encore, c'est-à-dire que le choix d'un Hamlet, quand un metteur en scène décide de monter, Hamlet, déjà, il faut qu'il choisisse la traduction, parce que là, c'est un choix absolument déterminant. Puis ensuite, en fonction que vous preniez Laurence Olivier, ou soit un jeune acteur sortant de l'adolescence, le choix, il est presque déjà fait, en fait. Or, la particularité de cette pièce, c'est que Hamlet, il va changer dans la pièce. Et de temps en temps, on a une brute épaisse qui n'hésite pas à poignarder Polonius ou à se battre avec Laërte comme un vrai guerrier, on va dire. De temps en temps, il est en proie au doute. De temps en temps, il est fou amoureux d'Ophélie et dans un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il est le même, mais comme nous, presque. Enfin, on peut basculer comme ça d'un état à l'autre. Et là, du coup, le travail de la troupe permettait d'accentuer un peu ça. C'est-à-dire que de temps en temps, il sera joué effectivement par une comédienne, sachant qu'à l'époque élisabéthaine, les rôles féminins étaient joués par des jeunes hommes qui n'avaient pas encore mué, hein, donc on pouvait inverser cette contrainte de l'époque. Et c'est aussi une manière de raconter la troupe au travail, j'allais dire. C'est-à-dire comme quand on serait dans une phase de répétition où on s'autoriserait ce genre de liberté. Ben là, j'avais envie de l'autoriser dans le spectacle.
Et des commentaires sont faits, hein, Gérald, sur les comédiens. Il est indiqué, c'est vous, je crois, qui prenez la parole pour dire, alors voilà, Hamlet est décrit par sa mère comme étant, puis je ne sais plus si vous laissez la parole à sa mère qui dit « little fat », enfin du moins il doit être un peu enrobé. Donc vous opposez sur scène Hervé et Olivier Borle et Hervé Didin.
Hervé Daguin.
Et donc, enfin du moins, il y a une sorte de jeu qui est fait comme ça pendant quoi? Une petite minute sur « alors il doit être déchevelé », enfin du moins chevelu, c'est ce qui n'est pas le cas d'Olivier, que nous connaissons, hein, auditeur, c'est pour ça que je le nomme, il est déjà venu plusieurs fois à l'émission pour des spectacles différents. Nulle incohérence particulière qui fait qu'on aurait des favoris. Donc bref, Olivier est évoqué. Et ensuite, il doit être plein d'énergie, je ne sais quoi. Et là, c'est peut-être Hervé qui baisse les épaules. Enfin, je ne sais plus. Il y a tout un jeu qui est fait. Et c'est drôle.
Là, c'était une manière. C'était une manière aussi de démarrer la représentation par l'idée qu'on se fait du rôle, en fait. C'est en donnant à ce moment-là la parole au spectateur et en s'amusant à faire ce petit.
Vous faites voter, c'est vrai.
Ce petit sondage, ce que je propose.
Il faut lever la main.
C'est la mode.
On ne fait pas sortir. L'aventure est terminée. Au revoir. Et vous nous en
parce que c'est vrai que très souvent, elle est assez éloignée du texte de Shakespeare. L'idée qu'on se fait du rôle est assez éloignée du texte de Shakespeare. Parce que 30 ans, une époque où l'espérance de vie était de 45 ans, parce qu'Hamlet a 30 ans, ça c'est dit par Shakespeare dans la pièce. C'était donc loin d'être un jeune homme sortant de l'adolescence. C'était un homme mûr, en fait, dans la pleine force de l'âge. Et j'aime bien démarrer le spectacle comme ça, en court-circuitant un peu les idées qu'on se fait du rôle. Et en même temps, c'est aussi une manière de rentrer dans l'histoire de manière, souple, dans une sorte de connivence avec les gens, et de ne pas démarrer le spectacle de manière trop péremptoire.
Et alors concrètement, enfin voilà, il faut peut-être aussi l'indiquer, le commentaire, ce méta tout à l'heure dont nous parlions, ce méta à propos ne pollue quand même pas la scène. On a droit à des moments de, il y a quand même la pièce est tout de même jouée, puisque concrètement sur le plateau, vous êtes sur le côté. Vous avez un petit bureau qui est assez nourri. Enfin, du moins, il comporte une ou deux épées. Il y a une bougie. Il y a aussi
un sablier, une bougie, des
sabliers.
Donc voilà, des tibétains.
Vous êtes quand même
sandales.
Sur le côté, ce qui fait que l'essentiel quand même de la scène du plateau est tout de même bien occupé par les comédiens qui viennent. Très peu d'objets, un miroir tout de même, un miroir assez particulier, ne serait-ce pas une image de la pièce, un miroir qui est, c'est quoi le truc, il est centain, c'est ça,
c'est un miroir centain,
permet de voir également à travers, un miroir fenêtre et enfin du moins des différents effets. Donc la pièce est quand même jouée, hein, ça s'appelle quand même Hamlet, le 60 que vous ajoutez, ben voilà, c'est là le commentaire, 60 minutes pour faire un propos, pour faire des précisions, la mort d'Ophélie serait peut-être inspirée d'un épisode de la vie de Shakespeare. Non, enfin voilà, il y a toute une richesse qui est foisonnante, enfin du moins qui est absolument impressionnante. J'en bredouille, je ne sais même plus ce que je pourrais indiquer encore. certains de ces acteurs, vous parlez de troupes, font partie de, déjà d'une troupe, Théâtre de l'Iris, je crois, c'est ça ?
Alors, il y en a deux, oui. Émilie Guiguen et Hervé Daguin, qui sont, on va dire, membres permanents du Théâtre de l'Iris. Théâtre de l'Iris, dans lequel j'étais en résidence après ma mésaventure des ateliers. J'étais en résidence chez eux pendant 2 ans et c'est là que j'avais créé un premier spectacle qui s'appelait Hamlet or A Piece of Him. Le Piece of Him étant en lien avec la première réplique d'Horatio. L'idée, dans le fond, d'Hamlet 60 était. J'avais fait ce premier spectacle qui durait 2h30, qui était beaucoup plus foisonnant, dense, long.
Y avait-il déjà l'aspect commentaire aussi ?
Oui. Qui prenait encore plus de place. Et petit à petit, on apprend, il faut que le commentaire s'efface et que ça puisse exister. Et puis après, c'était aussi l'idée d'aller à Avignon avec ce spectacle, parce que j'avais peu de visibilité, malheureusement, au Théâtre de l'Iris. C'est-à-dire que le spectacle marchait très bien avec les gens qui venaient, avec le public scolaire, avec le travail en amont que je faisais sur les représentations, mais les professionnels ne venaient pas à voir le travail. Je me suis dit, moi, ça m'embête pas que les professionnels viennent et me disent qu'ils n'aiment pas, mais au moins, j'aimerais qui viennent. Donc je me suis décidé de faire Avignon et du coup ça m'a imposé des contraintes, mais ces contraintes dans le fond étaient bénéfiques, c'est-à-dire quant à la durée elle est venue de là en fait. C'est-à-dire que quand vous allez dans Avignon dans le off, vous avez un créneau de 2 heures et il faut qu'en 2 heures vous ayez monté le décor, vous ayez joué, vous ayez débarrassé le décor. Donc à partir de là, c'est très simple, les choix scénographiques ils sont rapides, mais ils étaient un peu dans l'esprit de ce que j'avais fait. Simplement, il fallait que je les radicalise et que je les pousse au bout. Donc la condensation, la simplicité du décor, et je me souviens quand on avait répété ça au TNP, on s'amusait tous les matins dans une salle du TNP à faire le montage comme une sorte d'entraînement pour Avignon. C'est-à-dire, on arrive, il y avait un gros tas, et en l'espace, je chronométrais donc les comédiens, hein, systématiquement sur le montage et sur le démontage, et on gagnait du temps.
Des voitures de course.
Et là, c'était un peu l'ingénieur qui essayait d'optimiser les mouvements des uns et des autres pour réussir à faire ce... Donc c'est venu de là. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est un peu comme le théâtre permanent avec Gonel Morin. Quand on tourne dans les campagnes, on a un petit camion avec quasiment rien, et ça nous empêche pas de faire du théâtre. Là, on a une camionnette de 9 mètres cubes, et on a tourné en Ile-de-France, en Suisse, en région Rhône-Alpes, avec Hamlet, on va bientôt fêter la 60e représentation, et c'est le fruit du coup d'Avignon dans le off. Alors c'est Avignon, c'est à la fois cet immense marché qui parfois quand j'y vais me terrorise, on va dire, et en même temps si on s'y prépare, ça a été pour nous avec l'équipe que vous avez citée tout à l'heure une aventure humaine absolument formidable, et même le travail de rencontre. Alors moi je voulais pas du tout Avignon qui est ce fameux tractage avec 2 adjectifs ridicules qui viendraient qualifier le spectacle, c'est léger, frais et ça dure 60 minutes, mais je voulais aller à la rencontre des gens, c'est-à-dire rentrer dans une discussion sur le projet artistique et non pas vendre un quelconque. Et ça a marché en fait, c'est-à-dire que les gens ils étaient demandeurs de cette chose-là. Et je prenais du plaisir moi à m'arrêter 10 minutes avec un spectateur ou une famille, boire un café, et puis parler de ce qu'on était en train de faire sans vendre quelque chose. C'est-à-dire essayer de susciter le désir, mais par une rencontre humaine. Et on s'est rendu compte que sur les 10 premiers jours, ce travail-là, comme on était 6 comédiens, mais on était 8 en tout, dans la ville d'Avignon, on se faisait ça à peu près 3-4 heures par jour, portait ses fruits. Ouais. Puis ensuite, le bouche à oreille a pris le relais, et puis du coup, on a eu du monde tout le temps. Les programmateurs sont venus, et le spectacle, du coup, tourne depuis. Donc, c'était vraiment une belle aventure humaine avec la même équipe de comédiens qu'on a réussi à chaque année, chaque saison depuis à organiser comme ça, grâce à Bob Moran qui est avec nous dans le studio, à organiser des tournées. Parce qu'il allait de soi que c'était important de continuer à travailler avec les mêmes. L'aventure se passe comme
même
ça de
si
manière.
On change de rôle, on reste quand même ensemble.
Bah oui, c'est.
C'est quand même la troupe qui.
Ouais, et puis tout le monde a mouillé la chemise à Avignon, et c'est un peu la. Non pas la récompense de ce travail-là, mais il y a une forme de fidélité qui est importante à mes yeux.
Allez, petite pause. Est-ce que nous écoutons donc ce malheur à moi dont je parle depuis tout à l'heure, qu'on n'arrive pas encore à placer? Puis peut-être une sorte de dernier temps de parole que nous pourrions avoir d'ici jusqu'à 15h, où on verra peut-être si on peut dépasser. Zut, on a perdu quoi, 4 minutes en début d'émission. On verra si on déborde. Peut-être un dernier temps qui serait éventuellement, je sais pas quel... certes l'avenir, mais justement à travers cette figure d'Hamlet, à quel point Hamlet vous parle-t-il, à quel point vous, parce que pourquoi Hamlet et pas, je ne sais pas, Roméo et Juliette, ou bien le roi Lear, ou bien
et puis
d'autres pièces.
Ophélie aussi, pas que d'Hamlet.
Et puis ah oui, on pourrait évoquer Ophélie. Donc nous écoutons toujours extrait de l'album de David Gauchard qui s'appelle Hamlet Thèmes et Thèmes au singulier, oui, Thèmes et Variations qui est au pluriel. Malheur à moi, et puis nous continuons avec Philippe Mangenot.
Mais on résumera l'histoire quand même, ça serait important.
Alors, je fais n'importe quoi. Voilà, ça va, ça part maintenant.
quelle âme noble et renversée ainsi. L'épée, la langue, l'œil du chevalier, du clerc, du prince, et l'espoir et la rose d'un règne de justice. Le miroir du goût, le parangon de l'élégance, le pôle des regards. Et la musique de ses voeux, je vois cette raison si souveraine, comme un doux carillon, désaccordé, fendillé, sous d'un rauque, et l'élégance incomparée, et la jeunesse en fleurs. Malheur à moi, lui, l'avoir vu, et voir ce que je vois.
Est-ce qu'on peut voir ce que voit Ophélie ? Non, non, on ne peut pas, puisque nous faisons de la radio. Néanmoins, Philippe Mangenot, quel terme employer ? Responsable ? Coupable ? Enfin, du moins du spectacle Hamlet 60.
Auteur et comédien.
Auteur. Compositeur, non, oui, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de musique, il y a un petit peu d'effets sonores, et c'est vous qui les jouez d'ailleurs. Il y a des
oui,
des
mais
coups
c'est
de,
plus de la, du bruitage, on va dire, voilà, c'est plutôt, ben, plutôt du bruit que
donc,
de la musique.
Philippe Mangenot interprète également, disais-tu effectivement, Gérald, commentateur, critique, enfin, du moins vraiment tout un tas de casquettes pour ce spectacle Hamlet 60 qui est encore donné à la Renaissance ce mercredi soir 2 décembre, les jeudis 3 et vendredi 4 à 20h, à 14h30 ou 14h également pour les scolaires en après-midi. Et donc là, à l'instant, nous écoutions Ophélie, tu viens de le demander Gérald, que tu viens d'indiquer. Voilà, ce serait peut-être bien de parler d'Ophélie, puis aussi de parler
de cette histoire. De meurtre injuste, de vengeance, d'amour, de mort.
Alors attention, contrainte Gérald, il nous reste 10 minutes, puisque ouais. Le blues des canuts n'aura pas lieu à 15h, ce sera plutôt Son Bâtard qui est anticipé pour une spéciale de 2h, Son Bâtard de 15h à 17h avec Loïc. Donc on lâchera le créneau, et bien allez, top, 9 minutes.
Moi je vais faire un petit, non pas un résumé, mais pour parler de la figure d'Hamlet. Effectivement, donc toute la pièce démarre par la mort du roi Hamlet. C'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire si on dit le nom Hamlet, on peut parler soit du père, soit du fils, soit de la pièce. J'allais dire dans la classe ce matin au lycée Édouard Herriot, il y a qui fait dit le Saint-Esprit pour le troisième, mais elle a pas tout à fait tort en fait. C'est-à-dire derrière la pièce il y a l'auteur et derrière l'auteur il y a le créateur, et du coup Hamlet voilà désigne ces trois entités là. La pièce démarre par la mort du roi Hamlet, donc Hamlet père. On le précise, si on le précise pas, voilà, Hamlet père meurt. La particularité c'est qu'Hamlet fils, au moment où il meurt, il est pas à la cour, il étudie à Wittenberg, ce qui est aussi là un peu une énigme, c'est-à-dire pourquoi il est en Allemagne et pourquoi il ne se prépare pas d'une certaine manière à prendre la succession de son père au royaume du Danemark, pourquoi il est éloigné à ce moment-là. C'est une énigme dont on peut faire des hypothèses, mais voilà. Donc il retourne à Elsener pour les funérailles de son père, et qui sont suivies de très près par le remariage de sa mère, Gertrude, avec Claudius, l'oncle du roi défunt, et le frère du roi défunt et l'oncle d'Hamlet.
Il mange le gigot froid le soir pour les.
Ouais, exactement.
La noce est chaud
plats,
pour le deuil à midi.
Les funérailles repassent froid sur la table des noces.
Il va
de soi qu'Hamlet est absolument, comment dirais-je, ce qu'il ne supporte pas dans le fond, c'est la précipitation du remariage, qui est une sorte de chose impossible. Comment au bout de 2 mois, ma mère, qui aimait si fort mon père, peut se remarier avec mon oncle, ça lui provoque un sentiment de dégoût sur la nature humaine. Et donc il n'a qu'une envie, c'est de repartir en fait, après les funérailles de son père. Sauf que son ami Horatio vient lui dire, il y a un truc bizarre sur les remparts d'Elsener depuis 2 nuits. Il y a vraisemblablement un fantôme qui ressemble à votre père, qui erre sur les fantômes. Donc jusque-là, il était muet. Et donc Hamlet interroge Horatio et veut voir de lui-même cette créature d'air, ce fantôme. Il monte sur les remparts. Le fantôme ne s'adressera d'ailleurs à Hamlet que quand ils sont tout seuls tous les deux. C'est-à-dire, tant qu'il y a du monde, il fait une sorte de pantomime pour demander à Hamlet de le suivre. Et le fantôme lui annonce que son père n'est pas mort piqué par un serpent à l'oreille, mais que c'est son oncle, Claudius, qui l'a tué, et demande à son fils de le venger, et précise, chose importante, précise qu'il demande à Hamlet de ne pas faire de mal à sa mère, Gertrude, comme s'il anticipait sur la possibilité que pouvait avoir Hamlet de faire du mal à Gertrude. Et la pièce démarre là, dans le fond. Or, toutes les tragédies de la vengeance, en gros, à l'époque élisabéthaine, elles fonctionnaient sur ce principe-là, et basculaient très vite dans l'action. La grande particularité, le génie de Shakespeare, c'est qu'il faudra attendre 4 heures, voire 4 heures et demie pour arriver au dénouement. Et là encore, je trouve ça absolument formidable, c'est-à-dire que plutôt que de se précipiter dans l'action, que fait Hamlet ? Il interroge cette créature d'air, il la questionne. C'est-à-dire qu'il prend le temps de la réflexion avant de basculer dans l'action. Parce que ce n'est qu'un fantôme. Et à l'époque élisabéthaine, un fantôme, ça pouvait être soit une créature liée au diable, soit une créature liée à Dieu. Donc le fait de ne pas se précipiter dans l'action, j'ai découvert ça en faisant des recherches, c'était presque une préconisation du protestantisme d'attendre pour ne pas devenir le suppôt de Satan. Donc il y avait une forme de sagesse, dans le fond, de ne pas se précipiter dans l'action. Et Hamlet va mener une enquête sur la mort de son père.
Se faisant passer pour fou.
Mais c'est la stratégie utilisée. Il le dit à Horatio dans l'acte 1. Il dit je vais utiliser la folie pour mener mon enquête, ce qui est une technique, c'est-à-dire qu'il va utiliser le théâtre déjà. Hein. C'est en jouant le fou. La folie étant annoncée comme étant feinte, il décide de jouer le fou pour percer le mystère sur la mort de son père et questionner cette illusion, dans le fond, qu'est le fantôme. Et la chose absolument incroyable, c'est qu'il va utiliser quoi ? Il va utiliser le théâtre. Et là, moi, je peux penser que pour Shakespeare, le seul endroit où la vérité peut se révéler, c'est pas la scène religieuse, mais c'est le plateau de théâtre. Et d'une manière très simple, c'est-à-dire qu'il va demander à des comédiens de rejouer le meurtre de son père. Et à ce moment-là, il me demande à moi, Horatio, de regarder dans les yeux Claudius en train de regarder le meurtre de son père. Et si Claudius est coupable, il se démasquera.
Ça se
verra. Mais là encore, rien n'est.
Vous faites un commentaire là-dessus sur. Il y a une première. Il y a une pantomime à l'intérieur d'ailleurs.
C'est vraiment.
Mais oui, parce qu'il y a une chose qui est souvent coupée, c'est que la fameuse scène de la souricière, souvent, il se trouve que Shakespeare nous l'indique comme étant la succession de deux scènes. L'une muette, qui est du domaine de la pantomime, et l'une où on bascule dans la pièce parlée. Et il se trouve que Claudius ne réagit pas en face de la pantomime, mais réagit quand on passe dans la pièce parlée, qui est l'objet effectivement d'une réflexion. C'est-à-dire, s'il y en a deux, c'est qu'il doit bien y avoir une raison, et je tente une série d'hypothèses.
J'ai bien aimé la dent arrachée.
La deuxième dent arrachée.
Alors tout cela finira comment ?
Mal. Ah, c'est un bain.
Très mal, comme d'habitude.
Qui s'en sort ? Horatio, je crois.
Parce que
Yorick est mort déjà 27 ans avant, puisque 23 ans, je crois, c'est quand il avait l'âge de 7 ans.
Oui, exact.
Donc, enfin, du moins, donc tout le monde, hein, il me semble. C'est Ophélie, enfin Paul.
Mais en même temps, j'aime souvent dire que je préférais qualifier plutôt que de dire la tragédie du prince d'Elseneur, de dire que dans le fond, la tragédie la plus terrible d'Hamlet, c'est la tragédie d'Ophélie en fait. Son destin est un destin tragique. Pour moi, le destin d'Hamlet n'est pas un destin tragique. C'est-à-dire qu'il y a un moment même où il fait le deuil de sa propre mort comme étant une étape nécessaire pour faire changer les choses. Quasiment comme si on passait, j'allais dire, du Moyen-Âge et de la sauvagerie du Moyen-Âge à la Renaissance. C'est-à-dire que d'aucuns ont vu en Hamlet une figure qui serait une figure de lumière et qui viendrait opérer cette bascule-là. À l'inverse, Ophélie, destin tragique parce que la violence des hommes, c'est-à-dire que ça soit celle de son père, que ça soit celle du roi, que ça soit celle d'Hamlet.
Son frère également.
Que ça soit celle de son frère. Et, ouais, absolument.
Un frère de banlieue, là, un peu affaigard.
Absolument, avec une inquiétude sur la virginité de sa sœur. C'est une fantasmagorie liée à. C'est absolument insensé au début de la pièce.
Tellement répandu.
Et en plus, et il se trouve que cette violence-là fait qu'Ophélie va se précipiter dans la folie. Les métaphores utilisées par Shakespeare sont terribles. Hein. C'est-à-dire que quand Polonius dit veut tendre un piège en mettant Ophélie comme appât, donc elle serait dans une scène de chasse le morceau de viande pour attirer la bête, hein, si on continue cette métaphore qui est utilisée par Shakespeare. Et à un autre moment, Polonius dit à Claudius, mais je lâche ma fille sur elle, c'est aussi la chienne qu'on va lâcher sur la proie. Une métaphore liée à la chasse où Ophélie est à la fois l'appât, le morceau de viande qui va attirer Hamlet et la chienne de chasse qui va rabattre le gibier pour piéger Hamlet.
En peinture, Gérald, ça a inspiré, non, la figure d'Ophélie.
Ophélie, oui, par les pré-raphaélites anglais.
Et seulement
Van Jones.
Seulement, bah,
le plus connu, c'est le tableau.
Tableau.
Le tableau, et là, on la voit vraiment sous l'eau, très belle. immobile, dépassant à mi-corps dans des limons, ouais, des fleurs.
Ça donne lieu, là, je vais rappeler une petite anecdote.
Ça donne lieu
parce
à une belle image d'ailleurs.
Et on absolument. Pas,
et moi, j'ai fait une. Sur le plateau, il y a de belles choses.
J'ai fait une vidéo, mais qui n'est pas dans le spectacle. Parce qu'il se trouve que j'ai une baignoire verte chez moi. Et on a fait une séance où on a tourné la mort d'Ophélie dans ma baignoire avec Ophélie. On avait mis des fleurs. Et c'était assez beau parce que du coup, il y avait un moment où l'eau était. Comment dirais-je, il y avait une sorte d'irisation. Et puis petit à petit, elle s'enfonçait dans la. On avait vraiment l'impression qu'elle était dans un lac en fait, et elle était emportée par
la. Il est très porteur. Je connais notre artiste Clément Massieu qui a travaillé avec la baignoire aussi pour se faire apparaître dans une baignoire de manière intermittente, nue, très discrètement, dans un
bain. Ouais.
Elle a appelé ça Ophélie aussi.
Il me semble qu'on a bien fait, Gérald. On vient d'interrompre Philippe, mais c'est parce que si on ne l'interrompt pas, on ne pourra. Il y a trop à dire pour cette pièce. Je souhaite seulement faire une petite annonce, puis on va peut-être encore dire un ultime mot. Le groupe Graines d'Anard vous invite, auditeurs, les samedis 12 et dimanche 13 décembre, à découvrir la figure de Jean Méliès. 1604-1729, fut le premier penseur de l'athéisme à en offrir une théorie achevée. Il consacra les dernières années de sa vie à écrire sa pensée plus radicale que celle de tous les penseurs des Lumières. Après lui, il a dénoncé les religions et toutes les superstitions comme des outils pour abuser les peuples. Il est le seul penseur au XVIIIe siècle à prôner une société égalitaire dont la réalisation passe par l'action révolutionnaire des masses. À 14h30, une conférence, à 15h45, une deuxième conférence, ainsi qu'à 17h. Au chapeau, ça se trouve à la rotonde de l'INSA. C'est absolument incroyable, la salle René Char. Ça permet de boucler la boucle en quelque sorte. Nous recevions Philippe Mangenot qui, vous auriez encore beaucoup à dire, non?
Non, juste quand même la salle René Char que j'ai inaugurée il y a 25 ans en présence de la femme de René Char. Et j'ai lu des poèmes de René Char il y a 25 ans pour inaugurer cette salle.
C'est absolument incroyable.
Donc, en ma fin et mon début, in my end is my beginning.
Gérald, cours, va donc voir ce spectacle. Je ne te dirai pas go to the nunnery, mais va. Va à la Renaissance d'Oulin pour assister à Hamlet 60. On se retrouve mercredi prochain, invité à définir, à déterminer. Et puis voilà, hop, il est le temps de passer son bâtard. Un tout petit peu de bande continue et puis son bâtard avec Loïc. Auditeur, bon après-midi et puis à très bientôt. Faut-il sacrifier nos libertés? Il y a tellement à dire dans chaque émission, c'est trop court. Merci Philippe,
merci
Bob, merci Gérald.
Au revoir, merci.
Ciao tout le monde.